super. Et c'est signé Théo Charaf. On entre de plein pied dans la deuxième heure de ce Sweet Home Chicago numéro 1085 avec tout de suite un retour vers le disque du mois. Il s'agit de l'album de John Nemeth, toujours Stronger Than Strong. Ensuite, on écoutera un premier extrait du double album de Leadfoot Rivet et on aura le plaisir d'avoir Leadfoot Rivet au téléphone en direct dans la radio. Sometimes, extrait de Stronger Than Strong, l'album du mois de décembre pour Sweet Home Chicago, Chicago par John Nemeth. Et puis au cours de cette deuxième heure, on est ensemble jusqu'à 15h, notre invité du jour, invité de marque Leadfoot Rivet, qu'on va écouter tout de suite à travers un premier extrait de cet album compilation, double album chez Dixie Frog, ça s'appelle Sweet Bedtime Music. Leadfoot Rivet. Sweet Bedtime. Titre partagé avec l'un des nombreux invités de cet album. Je parlais de Tommy Castro. Il s'agissait de Sweet Bedtime Music, donc enregistré par Lightfoot River, qui fait partie de ces très nombreux titres figurant sur ce double album sorti chez Dixie Frog. Lightfoot River est au téléphone en direct dans Sweet Home Chicago. Comment ça va?
Bonjour Marc, salut. Ça va bien?
Ici ça va très bien. Et toi?
Ben justement, je te disais, vu les circonstances...
Vu les circonstances, voilà, bah oui. On dit tout ça, mais non, ça va quand même, quoi, c'est ça l'idée.
Oui, tant qu'on n'est pas à l'hosto, on va plutôt bien.
Quoi. Alors, tant qu'on n'est pas à l'hosto, bon, effectivement, on va croiser les doigts, on n'est pas là pour annoncer des mauvaises nouvelles. On est là pour essayer, on va dire, de positiver, et puis de dire que la musique live, même si on ne peut pas, pour l'instant, tout à fait en profiter en vrai, eh ben, elle continue à exister, continue à être là. On en parlait tout à l'heure avec Fred Delforge de France Blues par rapport à hein, les musiciens qui se produisent sur Internet. Ça fait partie des choses que tu fais, toi, maintenant, enfin, depuis quelques mois, ou pas du tout?
Que je fais quoi?
Eh bien, la musique sur Internet au lieu de la musique sur scène, quoi.
Oh non, moi, tu sais, non. Internet, je maîtrise tellement mal que...
Ouais.
À part recevoir les messages, c'est à peu près tout ce que je peux faire sur Internet. Bah, tu vois.
Recevoir les messages et y répondre, bah, je peux témoigner, en fait. Pas de problème
oui,
pour ça.
Oui, aussi, quand même. Ouais.
Alors, dis-moi, on t'appelle à l'arrivée comme à la ville ou Lightfoot River comme à la scène? Je pense que Lightfoot, ça va être... c'est ça qu'on va dire aujourd'hui. C'est un surnom qui t'a été donné par Larry Garner, je crois.
Oui, c'est ça. Parce que dans l'époque où j'organisais les tournées de blues... Et il trouvait que je conduisais tellement vite, notamment une fois entre Clermont-Ferrand et, et Luxembourg. J'avais un Brake Subaru qui pétait des flammes à l'époque. J'ai pas arrêté d'être à 180 tout le temps sur l'autoroute. À l'époque, on avait moins de restrictions que maintenant. Et en arrivant au soir, il m'a invité sur scène et il me présentait comme Let Foot Rivet, c'est-à-dire pied de plomb, parce qu'il trouvait que je pensais comme un dingue.
Il te reste des points sur ton permis, dis-moi.
Écoute, je me suis beaucoup calmé, avec l'âge notamment, mais bizarrement j'ai fait deux conneries il n'y a pas très longtemps et j'ai plus que 5 points. Alors.
Aïe, ah d'accord, bon ben alors, il faut essayer de maintenir ce petit capital qui te reste.
Je ferai plus gaffe encore.
Donc faire encore plus gaffe tout en restant quand même fidèle à la légende, hein. Que ce soit Larry Garner qui t'est qualifié ainsi, voilà, je pense que ça restera dans la légende du blues par chez nous. Il y a plein de choses à dire, il y a tellement de choses à dire sur ta biographie. Moi je l'ai démarré en 1964, mais encore avant il y avait déjà des choses. Vers 12 ans on te voit sur scène Alain, j'ai envie de dire Alain ou Lead Foot, allez.
Non mais dis Alain parce qu'on se connaît.
Bon, tu connais pas. Alors, on est au début des années 60, on est au golfe Drouot, voilà, on ne va pas refaire toute l'histoire parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais il y a forcément des anecdotes, des gens que tu as rencontrés et puis des artistes aussi qui ont émaillé ton parcours. Moi, ce que je te propose, plutôt que de te demander la sempiternelle question, quelles sont tes influences, ce que je te proposerais peut-être, ce serait quelques extraits comme ça d'artistes que tu as pu soit voir sur scène, soit entendre en tout cas sur ton vieux Tépaz de l'époque ou maintenant sur ton lecteur MP3, je ne sais pas, des disques, des enregistrements des années allez, 50, 60, 70, peut-être même plus récents pour certains.
Comme tu veux, ouais, selon ça.
Moi, je te propose un premier extrait, et puis dès que tu sais de qui il s'agit, tu connais le jeu, Alain, voilà, tu lui donnes le nom de l'artiste. Tu appuies sur le buzzer, exactement. Allez, je t'en ai préparé quelques-uns dans le blues, pour commencer.
Oh yeah.
Ah ben oui, les maudits water, exactement. Là on est en 1949, c'est la toute première version de Manish Boy.
Manish Boy, ouais.
Alors c'est un morceau qui a été repris aussi par un autre bluesman que tu connais. Tu m'arrêtes dès que tu sais, hein, pas trop long. Comment ?
Bo Diddley, non ?
Bo Diddley, exactement, voilà. I'm a Man, donc le même morceau. Toujours en blues, tiens, allez, hop. Ah oui, voilà, ça fait 3 sur 3 pour l'instant. À l'arrivée, c'est un sans faute. Voilà le titre. Exactement. Smokestack Lightning. Voix incroyable. Allez, un artiste dont on n'a pas parlé pour présenter, préparer cette émission, pardon, mais que tu connais forcément. C'est T-Bone Walker, exactement.
Ouais.
Voilà, le titre Mean All World. Il n'a pas encore chanté, mais déjà, la guitare, tu as reconnu.
Non, mais bah exactement, il a un son et un phrasé vraiment tout à fait typique.
Exactement. Voilà, quelques extraits comme
j'ai
ça.
J'ai eu la chance de voir T-Bone Walker à Paris,
ouais,
en duo avec Memphis Slim aux Trois Maillets.
Ça remonte à quand, ça, les années 60?
Ça remonte au tout début des années 60.
Hein. Ah oui, alors, juste après que Memphis Slim soit reparti d'Israël, quand il s'est installé en France en 62, c'est ça?
Oui, bah, je me rappelle plus la date, mais il habitait en France, en effet, à ce moment-là.
Ouais, ouais,
il jouait aux Trois Maillets toutes les semaines, pratiquement. Et un jour, T-Bone Walker est venu en touriste, et ils ont joué pendant 2-3 soirs aux Trois Maillets. Et il n'y avait d'ailleurs pas un monde fou, bizarrement. Je pense que peu de gens l'avaient su.
Mais
c'est vraiment mes plus chers souvenirs et plus exclusifs souvenirs possibles.
Et c'était possible pour un mineur à l'époque que tu étais d'assister à des concerts de blues pour aller voir des musiciens américains
Ben écoute, ça devait être quelque chose comme 62 ou 63. Oui, on ne demandait pas forcément ta carte d'identité à l'entrée. Hein.
Bon, tu faisais déjà 18 ou 20 à l'époque, c'est ça que tu vas nous dire?
Ben oui, en 62-63, j'avais 16-17 ans. Donc,
Ah oui. Et donc ça correspond au moment où toi tu as démarré la musique. C'était vraiment déjà le blues ou c'était plutôt le rock'n'roll qui te.
Ben c'était le rock'n'roll
avec
sans que je me rende tout à fait bien compte. Il y a énormément de blues dedans, puisque les premiers qui m'ont intéressé, c'est un peu Elvis Presley, mais j'ai jamais été très fou d'Elvis Presley, moi. Je préférais Buddy Holly ou Jerry Lee Lewis, et puis surtout après, Chuck Berry et Buddy Holly, vraiment.
Ouais.
Et par Buddy Holly et Chuck Berry, mais surtout par Buddy Holly, je suis venu insensiblement au blues. Muddy Waters et Owen Wolf en particulier, aussi à travers les Rolling Stones, les Pretty Things, les Yardbirds, etc. Mais bon, ça c'était juste un peu après pour les Stones. Je crois que leur premier enregistrement, ça doit être 62.
C'est ça, crois. 62 exactement, au moment de la formation du groupe, à l'époque de Brian Jones, bien sûr, à l'époque de leur premier disque. Et les trois premiers albums des Rolling Stones étaient très très blues. Il y a beaucoup d'interviewés dans Sweet Home Chicago qui évoquent ces années 60 et notamment l'influence du British blues. Toi, tu as commencé par le vrai rock and roll, le vrai blues entre guillemets, les créateurs, les Américains, et puis les Anglais sont venus après, c'est ça?
Ben ça m'a surtout, les Anglais, ça m'a ancré là-dedans. J'avais découvert un peu avant, juste un peu avant. Mais les Anglais, ensuite, ont fait tellement de reprises, d'adaptations du répertoire blues et rhythm and blues américain que ça m'a vraiment ancré là-dedans, quoi.
On va traverser ensemble les années rock'n'roll. Je t'ai préparé quatre titres que je vais sigler un petit peu plus rock'n'roll, justement. Est-ce que tu es prêt, Alain?
Non, je suis pas prêt.
Non. Allez, on écoute ça. Dès que tu as du nez, hein, tu interviens, il n'y a pas de problème.
Ouais, okay. Bah, ça, c'est Chuck, apparemment.
Eh oui, c'est Chuck. Mais c'est pas Johnny Lee Goode, hein, c'est un autre morceau. Alors, le titre, je sais que j'en demande beaucoup, là, mais on va attendre qui chante quand même. Exactement, Roll Over Beethoven, qui a été repris par les Beatles, je crois, à leur début, enfin notamment, parce
oui.
que c'est...
Oui.
Est-ce que ça a été repris par les formations avec lesquelles tu écumais le Golf Drouot dans les années 60, Alain?
Non, moi, la première formation avec laquelle j'ai joué au Golf Drouot, c'était un groupe qui était très connu à l'époque au golf, qui s'appelait les Turnips.
Les Turnips, ouais.
Donc, il y avait tout un tas de gens... qui sont ensuite peu ou prou devenus des gens, des musiciens connus, dont
peu ou prou,
Jacques
peu,
Mercier.
Ou peu ou le prou, on va dire. Hein.
Un peu, oh, ouais. Bravo.
Ah, dis donc.
Je n'allais pas la rater, celle-là.
Ah, bah oui, bah, c'est pour ça que je t'ai coupé la parole. Donc, Capitaine Mercier, bah oui, le roi de la soul en France, Capitaine Mercier, enfin l'un des rois.
Oui, c'est un funk, vraiment un grand chanteur, grand musicien.
Alors, en rock'n'roll, il y avait également un titre comme ça, écoute bien.
Bah,
eh oui, Little Richard qui nous a quittés cette année, hein, c'était au printemps, Little Richard. Tu l'as beaucoup écouté, ce garçon, tu l'as suivi jusque dans toutes ses frasques.
Oui, j'ai beaucoup écouté parce qu'il était tellement extravagant, il avait une voix tellement invraisemblable. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a arrêté de chanter du rock et peu après, au moment où je me suis intéressé à lui. Et ensuite, j'ai acheté un de ses premiers albums de gospel qui était une véritable merveille.
Et là, tu es devenu toi-même pratiquant du protestantisme.
Qui, moi?
Oui.
Ah bon?
Je ne sais pas.
Non, je n'ai jamais été protestant. J'ai jamais été très croyant malgré l'éducation religieuse que ma grand-mère paternelle a voulu que j'aie.
Et malgré Little Richard, donc. Ouais.
Mais je n'ai jamais été vraiment croyant et depuis longtemps, je ne le suis plus du tout.
Cette époque du rock'n'roll est maintenant révolue. On peut continuer à les écouter sur disque, bien sûr. Little Richard, Chuck Berry sont partis. Mais celui qu'on va entendre, il est toujours vivant. Écoute. You shake my
nerves and you rattle my brain. Jerry Lee Lewis.
Eh oui, Jerry Lee Lewis, le titre peut-être.
Red Balls of Fire.
Oh, trop fort. The Ball of Three. Goodness gracious, Great Balls of Fire. Je sais pas si tu as des nouvelles récentes. Moi, j'ai vu une vidéo de Jerry Lee Lewis. Bon, on va dire qu'il est... Voilà, ça devient compliqué pour lui de jouer, de chanter. Il y a encore pas si longtemps, il montait sur une scène, Jerry Lee Lewis. Hein.
Mais Jerry Lee, c'est un véritable miraculé. Il devrait, lui, être mort avant tout le monde, et c'est lui qui va être mort après tout le monde. Parce qu'il s'en est tellement mis dans le bus, il a tellement bu, il a tellement fait le con, il a tellement agressé les gens, il devrait être mort de toutes les façons possibles.
Tu penses qu'il va enterrer Keith Richards?
Ah non, peut-être pas quand
peut-être
même.
Keith
Richards, mais c'est pareil. Alors, c'est un invraisemblable, un submersible. Hein,
Dans la série Rock'n'Roll, il m'en reste un. Tu l'as cité tout à l'heure, ça va être très facile. Écoute ça.
Every day, it's getting closer.
Yes, Buddy Holly, qui lui nous a quitté très très vite. Je crois que c'était 59, 60, je ne sais plus exactement. J'ai pas révisé.
Oui, ça doit être dans ces eaux-là. C'est marrant parce que je suis en train de lire une biographie de Waylon Jennings.
Ouais.
Et Waylon Jennings en parle assez extensivement dans sa biographie au début parce que, imagine-toi que c'est Buddy Holly qui l'a découvert, Waylon Jennings.
C'est Buddy Holly qui a découvert Waylon Jennings.
Oui, oui, qui lui a fait enregistrer ses premiers titres. Et il l'a emmené avec lui sur la route, il faisait la première partie.
Incroyable.
Tu le crois, ça ?
Ouais, non, je te crois parce que tu me le dis. Et puis, qu'on est à la radio, surtout, il y a à peu près 3 millions d'auditeurs, tu sais. Donc, oui, je suis bien obligé de te croire, Alain. On va fermer cette page rock'n'roll. On a parlé blues, on a parlé rock'n'roll, mais il y a une autre facette de ton talent et puis de tes goûts musicaux qui s'appelle la soul music. Alors là encore, c'est très touffu. Retirer 4 artistes, ça reste très très réducteur. Mais je te propose une nouvelle sélection si tu veux bien.
Bien sûr.
On y va. Eh oui, Jotex. Un de tes favoris, je crois, Jotex.
Ah bah ça, Jotex, c'est un type qui pour moi était d'une importance incroyable parce que, d'une part, c'était un chanteur qui avait un univers vraiment spécial puisqu'il était un artiste de soul, mais avec une influence blues, mais country surtout énorme. D'ailleurs, il était produit par une boîte de production de Nashville, un label qui était fixé à Nashville, Dire Records. Et ils enregistraient aussi bien à Nashville qu'à Muscle Shoals ou à Memphis ou même au Texas dont il était originaire.
Bon, en fait, il enregistrait partout.
C'était un des rares qui, à l'époque, écrivait absolument tous ses titres, pratiquement.
Ouais. Il enregistrait partout où il pouvait être payé, finalement. C'est ça, un peu l'idée, non ?
Non, c'est pas ça. C'est qu'il avait un producteur assez tôt, qui était Buddy Killen, qui était le patron de Dire Records à Nashville, qui était un producteur de country avant tout, mais qui avait craqué sur Jotex. Et non, lui ensuite, il enregistrait dans différents studios, parce que ça dépendait le moment où il était, si tu veux, des fois il était même en tournée, et bon, il pouvait organiser une séance d'enregistrement à Houston ou à Dallas.
Alain, comment est-ce que tu expliques que quand on parle de soul music, Jotex ne soit pas forcément le premier nom qui arrive ?
Bah écoute, moi je pense que c'est parce que il était sur un label qui était un peu, même s'il était distribué par Atlantic, qui était relativement marginal, il ne faisait pas partie des grandes écuries comme Stax, ou comme, bien sûr, Tamla Montan. Et puis en plus de ça, il avait il était un peu hors cadre. Donc je pense que pour beaucoup de gens, Jotex n'était pas aussi important. En plus de ça, Jotex, c'est un grand auteur, compositeur, interprète. Et notamment ses textes, même, étaient, ou quand ils étaient marrants, ou quand ils étaient poignants, des textes assez fouillés, assez difficile à comprendre. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont un peu regardé de loin à cause de ça, voilà.
Alain, pendant que tu parles, pendant que je t'écoute et pendant que je te pose des questions, il y a des gens qui écoutent et qui suivent l'émission sur Facebook et qui interviennent. Il y a Alain Angelbert, notre ami Jalbi, qui nous propose, pourquoi pas un petit Vic Trolla pendant que tu y es, et puis qui nous précise que Buddy Holly avec Richie Valens et Big Bopper sont dans le même avion qui s'écrase en février 59, voilà, c'était bien en 59.
D'accord, voilà.
On poursuit notre voyage dans la soul avec un géant qu'on va qualifier de géant maintenant, hein, franchement, incontournable.
Otis Redding.
Eh oui, bah alors avec juste deux sons de cuivre, ça y est, t'as déjà reconnu Otis Redding.
Bah oui, les cuivres de chez Stax avec la partie très particulière qu'il écrivait à l'époque. Et puis en plus de ça, moi, Otis Redding, c'était alors là, vraiment mon chanteur favori, celui qui m'a le plus marqué à l'époque. Lors de mon deuxième groupe qui s'appelle les Murators. Bon, les Murators, ça a été un groupe qui était très connu à cette époque-là, en particulier en région parisienne, puis ensuite dans toute la France. Et au départ, c'était un groupe qui faisait des trucs des Beatles, des trucs des groupes anglais. Mmh. Et quand je suis arrivé, on s'est mis à faire de la soul music. Et donc, là, par contre, on faisait beaucoup de reprises, et notamment d'Otis Redding. Otis Redding, c'était...
Là, on est dans la deuxième partie des années 60, Alain, c'est ça ?
Non, c'était... non, t'as raison, c'était la deuxième partie, puisque c'était en 66.
Voilà, ouais. C'est au moment où la France a connu Otis Redding, 65-66, il nous a quitté fin 67, si ma mémoire est bonne. À l'âge de 26 ans, Otis Redding, qui sait ce qu'il aurait pu faire après toutes ces années s'il est...
Bah, oui, on se demande, hein. J'ai eu la chance de le voir deux fois là, à l'Olympia, justement.
T'as vu Otis Redding, toi, Alain ?
Oui, bah, je l'ai vu une fois avec la Stax Vault Review, comme on disait, donc en anglais.
Donc il y avait Steve Cropper, Donald Duck Dunn et tout ?
Avec qui ?
Il y avait Steve Cropper à la guitare.
Oui, bah, il y avait Booker T and the MGs, voilà, qui les accompagnaient plus, Andrew Love au sax ténor et comment il s'appelle le trompettiste, ton nom m'échappe. Et puis surtout, il y avait Eddie Floyd, il y avait Carla Thomas, il y avait Sam and Dave. Et Otis Redding.
Ah, c'est carrément la revue Rhythm and Blues formidable, quoi, que tu nous racontes.
Voilà, c'est ben oui, quasiment. Et après, je l'ai revu 2 ans après, où il est venu tout seul, ou presque tout seul, avec son propre orchestre, il y avait 4 ou 5 cuivres, c'est une grosse, grosse formation.
Alors, un autre artiste qui nous a quitté beaucoup plus tard, je te laisse le deviner, hein, de qui il s'agit. Ah oui, Solomon Burke. C'était pas facile parce que certains comme moi connaissent uniquement la fin de carrière de Solomon Burke, et notamment ce fameux concert à Cognac, je crois que c'était en 2003. Enfin, ça m'avait absolument fasciné. Tu l'as vu, toi, en live aussi, Solomon Burke?
Je l'ai vu au Méridien à Paris. C'est le seul endroit où je ne regrette pas. Il était déjà vieillissant, il était dans son fameux trône, il devait peser 160 kilos. Mais la voix était intacte et c'était fascinant parce que non seulement il avait une attitude avec une espèce d'ironie et de recul sur son rôle en faisant distribuer des roses
oui,
aux femmes,
oui,
de l'assistance. De toute façon, Solomon Burke, c'est toujours un mec qui a eu une attitude très, très distanciée, premier degré dans sa façon d'interpréter, et très distanciée dans son statut d'artiste, si tu veux. Et en plus de ça, le type même du grand, grand chanteur, parce qu'il savait à la fois, quand il fallait lâcher les fous, il avait une voix hallucinante, et en même temps chanter avec énormément de retenue, ce qui fait que quand justement il lâchait les fous, c'était d'autant plus impressionnant, quoi.
Moi, je me souviens d'une conférence de presse qu'il avait eu à Cognac dans le château NC, c'était absolument incroyable, il utilisait un fauteuil biplace pour lui tout seul, et à côté de lui, il y avait la petite Anna Popovitch qui était en train de lui cirer les pompes d'une façon très, très, voilà, beaucoup de condescendance. Ouais. On poursuit avec la soul, il me reste un quatrième extrait. Là, on n'est plus dans les années 60, on est sur un enregistrement récent, mais un album qui parle des anciens et des créateurs de la soul. Tu vas deviner tout de suite, je pense. Voilà, il nous raconte ses débuts quand il a vu Sam Cooke sur scène quand il était tout gamin. Et est-ce que tu as deviné de qui il s'agit?
Je vois pas qui c'est.
Alors on continue un petit peu. This is where I live, c'est le titre. C'est un album, je ne sais plus, je crois qu'il est sorti vers 2007. Vraiment pas, Alain?
Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas, comment il s'appelle, ce type qui joue de la Weissenborn et qui a chanté avec les Black Boys of Alabama?
Non, je pense pas.
Boys of Alabama.
Non, il s'agit de William Bell.
C'est pas vrai.
Oui.
Ah, c'est un des favoris dans les années 60.
Et c'est pour ça, voilà. Et donc ça, c'est un enregistrement récent. Bah écoute, voilà, il va falloir chercher l'album, Alain.
Ah oui, c'est un enregistrement récemment. C'est vrai que c'est chouette celui-là.
Alors, la question en corollaire à ça, on parle des années 60, on parlera bien sûr des années qui ont suivi, qui ont émaillé toute ta carrière, l'organisation de concerts aussi, parce que tu as fait énormément pour la musique également en tant qu'organisateur.
Pendant une quinzaine d'années, oui, à peu près.
Eh bien oui, et alors, tout ça veut dire quelques milliers de disques à la maison quand même, une belle collection, j'imagine, chez toi.
Bah écoute, oui, j'en ai vendu un peu, on en a volé un peu. Il a me resté environ 7000 EP quand même.
Oui.
Pas mal, énormément de CD, je n'ai jamais compté.
Et tu continues à écouter des trucs que tu as achetés il y a 30, 40, 50 ans
De temps en temps, j'ai racheté une platine il n'y a pas très longtemps pour pouvoir justement écouter certains albums. Et éventuellement d'ailleurs, m'inspirer ou chercher quelquefois sur les albums que j'enregistre. Il y a eu de plus en plus de mes compos avec d'autres gens, hein, parce qu'on écrit à plusieurs souvent. mais aussi quelques reprises, mais des reprises plutôt pas très connues, donc que je vais piocher dans ma discothèque. Voilà.
Alain, ce que je te propose maintenant, c'est d'écouter un extrait de cette compilation que tu as créée avec Dixie Frog. Dixie Frog, qui est un label, rappelons-le, auquel tu as participé à la création avec Philippe Langlois dans les années 80.
Au départ, en 86, on a créé Dixie Frog, Philippe Langlois et moi.
Oui.
D'ailleurs, Dixie Frog, le nom, c'est moi qui l'ai trouvé. Et les premiers artistes, les 10 premiers artistes qu'on a sortis chez Dixie Frog, qui étaient moins blues à l'époque, puisque Philippe était assez axé sur la... Tout en n'y connaissant pas grand-chose, parce qu'il était plus blues roots que moi-même, à la limite. Il pensait que la country allait exploser en France. Donc, moi qui étais assez branché country à ce moment-là, je suis allé faire le marché à Nashville.
À Nashville, oui.
Et j'ai pris en licence une dizaine d'artistes, dont Tony Joe White, le fameux live qu'ensuite pas mal d'autres labels ont ressorti au fil des années, et qui est une vraie pépite. Quoi, voilà.
Bonne pioche avec Tony Joe White, effectivement, encore un grand disparu récemment. Je crois qu'il est décédé en 2019, si je me souviens bien.
C'est tout récent.
Ouais. On va écouter un extrait de ton album qui s'appelle With a Lot of Help from My Friends, donc un titre inspiré d'un morceau des Beatles popularisé par Joe Cocker. Pourquoi ce titre, Alain? La question est évidente, bien sûr. Hein.
Ben parce que c'était un clin d'œil d'une part à la chanson des Beatles et à l'interprétation de Ringo Starr d'abord et ensuite Joe Cocker. Surtout parce que, bon, comme c'était une compilation avec beaucoup d'invités, ben c'est pour ça que ça devait être With a lot of help, au lieu de a little help.
Oui, voilà. Ben oui. Et donc, on a écouté tout à l'heure une participation de Tommy Castro, mais il y en a des dizaines. Tu m'as envoyé un truc absolument hallucinant, un fichier voilà, que j'ai ouvert avec les crédits, c'est-à-dire tous les gens qui ont participé à ce disque, finalement. Il y a des tas de guitaristes, bassistes, batteurs, claviéristes, enfin, il y a des Français et des Américains.
Énormément de guitaristes.
Alors, on peut les citer.
Je tiens à souligner la participation sur énormément de titres d'un de mes complices les plus réguliers depuis les 40 dernières années, qui est Patrice Boudreau-Lamont, ouais, qui était avec moi dans Rocking Chair, ainsi qu'avec Claude Langlois d'ailleurs, mon groupe qui était plutôt country rock blues dans les années 80, et puis ensuite que j'ai retrouvé à la fin des années 90 et avec qui j'ai enregistré jusqu'environ en 2010 à peu près, voilà.
Alors je vais citer tous les artistes guitaristes qui sont sur ton album With a Lot of Help from My Friends. Je parlais de J.P. Alarsen, Willie Anderson, J.P. Avellaneda, Patrick Baldran, Neil Black, Pat Boudreau-Lamont vient d'en parler, Tommy Castro aussi. Il y a également Fred Chapelier, Popa Chubby, Johanna Connor, Hanson Funderburg, Larry Garner, Amos Garrett, Claude Langlois, Miguel M, John Mooney, Stan Nobarpacha, Tommy Castro, Roy Rogers, Patrick Verbeck et Thomas Verich. Dis-moi, c'est parce que B.B. King n'était pas libre?
Non, B.B. King, il l'aurait peut-être fait parce qu'il était tellement gentil, cet homme-là. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais tout le monde s'accorde à le dire.
Ouais.
Larry Garner, en particulier, qui l'a connu et qui a été d'ailleurs, qui a eu un prix B.B. King à Memphis. Que c'était vraiment une crème de mec tel qu'il pouvait le transparaître, d'ailleurs.
On va écouter un extrait. On se retrouve juste derrière. On est en direct sur Radio 666 avec Litfoot River. Voici Litfootin.
telephone girl. I said, baby, don't you worry. In the morning I'm coming home. And you're the reason I'm always in a hurry.
Poutine, en compagnie de Neil Black, c'était Leadfoot arrivé sur ce double album Dixie Prog with a lot of help from my friends. Je suis toujours au téléphone avec Leadfoot arrivé. Ça va?
Oui, oui.
Alors, pour l'instant, pratiquement à sans faute à ce petit blindfold test qu'on a fait ensemble. On a pu entendre Muddy Waters, on a pu entendre Bo Diddley, Howlin' Wolf, T-Bone Walker pour la partie blues. Pour la partie rock'n'roll, c'était Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly. Pour la soul, on a entendu Joe Tex, Otis Redding, Solomon Burke et William Bell. Bah, je te propose de rejeter une petite oreille sur des artistes des années 60 côté par chez nous. Voilà, je sais pas si ça te... On va... Hop, excuse-moi, c'est une petite erreur. C'est ça. Voilà, petit clin d'œil à Muddy Waters, puis à Bo Diddley tout à l'heure, c'est le même titre, I'm a Man. Alain, aurais-tu reconnu?
Il est Yardbird.
Il est Yardbird, voilà, exactement. We'll never miss. Alors, les Yardbirds, faut quand même compter parmi eux un certain Eric Clapton, hein, je crois.
Moi, je sais pas qui c'est.
Ah non, bah écoute, un artiste qui va percer à un moment donné. Tout à l'heure, on a écouté Chemeka Copeland nous reprendre un vieux truc. Voici la version originale. Écoute bien.
Under my thumb.
Exactement. Under my thumb, sous mon pouce, sous mon doigt, hein, sous mon empreinte, on va dire.
Exactement.
Et puis, bien sûr, voilà, les Rolling Stones, la voix de Mick Jagger. On poursuit avec un truc tout aussi facile, mais allez, peut-être un petit peu moins connu quand même, mondialement. Mais ça, voilà, on va se rappeler quand même de ça.
Gloria.
Gloria, The Them, voilà, exactement. Le sans faute continue, Alain. Ça fait partie des tubes, des 45 tours qui passaient à l'époque. Ça a été repris aussi plein de fois, ce truc-là. Tu l'as joué?
Oui, ça, avec les Turnips, on jouait ça.
Alors, les Turnips, rappelons-le, c'était ta première formation, née en 1964-65, à ce moment-là.
Donc, ils existaient depuis le milieu 64, moi je les ai rejoints en 65, puisque je les ai rejoints comme deuxième chanteur. Il y avait déjà Gilles Nau, qui était le chanteur principal au début, qui ensuite d'ailleurs a enregistré 3-4 45 tours, plutôt soul dans les années 67-68, qui était formidable. Il y avait donc Jacques Mercier, Captain Mercier.
Ouais.
Et puis il y avait Geza Fence, qui était aussi le batteur de Dynasty Crisis avec Jack, ensuite au fil des années. Et puis deux musiciens qui ensuite n'ont pas vraiment continué la carrière, le bassiste et le clavier.
La question que je me pose par rapport à ce début de carrière que tu as eu, est-ce qu'il y a des enregistrements, que ce soit live ou studio, de ces premiers groupes?
Non, les Turnips, à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'enregistrement, parce qu'on avait une proposition en 65. Par le type qui produisait le premier album, le premier, pardon, 45 tours de Gilbert Montagnier.
Ouais.
Il nous avait proposé d'enregistrer, et d'ailleurs, nos parents sont venus le rencontrer, mais nos parents n'ont pas été très convaincus, ils ont pensé que c'était un faisant, ils n'ont pas voulu signer pour nous. Voilà.
D'accord.
À l'époque, on était mineurs jusqu'à 21 ans.
Hein. Ouais. Ils n'ont pas été aveuglés par le producteur, quoi.
Non, ils ont pas fait confiance, et donc on
n'a
pas
enregistré. Voilà. Ouais. Alors, oui, alors ton premier enregistrement, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'à quelle année? La première fois que tu as mis quelque chose sur du vinyle, c'était quand?
C'était en 1967, à la fin de l'année, pour une compilation qui était parue chez Fontana, qui était organisée par le Golfo, par Henri Leproux. Il avait choisi genre 7 groupes qui étaient bien connus à l'époque au Golf, dont les Turnips, et on avait donc 2 titres dessus, si je m'en rappelle bien. Il y avait un titre que je chantais moi en lead, ça c'était avec les Murators. Hein.
Et c'était un 45 tours?
Non, c'était un 33 tours.
33 tours, et tu en possèdes un exemplaire toujours?
Je dois en avoir un exemplaire, c'est un truc, à mon avis, assez rare.
Ouais.
Qui s'appelle quelque chose de tout, mais je ne sais plus comment. C'est sur Fontana, en tout cas.
Ça serait intéressant peut-être à numériser, faire profiter les gens maintenant qu'on a tous YouTube. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui reviennent comme ça à la surface.
Hein. Mais alors, il faudrait demander à quelqu'un d'autre que moi, parce que je suis incapable de faire ce genre de choses.
Les années 60, avec Leadfoot River, c'est également le souvenir peut-être de ce groupe-là. Alors ça, c'est une phase B, hein. C'est quand même pas un tube. Il peut pas y avoir que des trucs hyper connus non plus.
C'est qui ça? Je vois pas du tout. Hein.
Alors pourtant, c'est un groupe que tu connais. Hein. Le titre s'appelle The Sun, le soleil. Alors très franchement, c'est pas avec ça qu'ils ont fait un tube. C'était les Pretty Things.
Oh, c'est pas vrai.
Eh oui.
C'est la période qui a dû commencer à être un peu psychédélique des Pretty Things.
Voilà, je crois qu'on arrive dans les années Pink Floyd.
C'est pas
de là. Ouais, c'est plutôt 67-68. Voilà, on en a terminé avec ces années-là, mais moi je t'ai réservé quand même une autre petite sélection. C'est celle de 4 artistes Frenchies, 4 artistes français. Peut-être que tu les as cités tout à l'heure, peut-être pas. Quelqu'un que tu connais depuis fort longtemps, le voici. Benoît Blue Boy, exactement. Et c'est dans son dernier album, figure-toi.
C'est super. Le peu que j'ai entendu 3-4 titres, c'est super. Hein.
Réalisé par Nico Duportal.
Il est égal à lui-même, Benoît, il change pas. Mais tu vois, c'est que contrairement à moi, qui ai toujours été tiraillé par des influences très très diverses, hein, Benoît, depuis que je le connais, je dis, on s'est rencontré fin 64 au Golf de Rouen.
Vous êtes rencontré en 64 pour la première fois avec Benoît?
Oh, oui, au Golf de Rouen. Il était longtemps en tant que spectateur à l'époque, je pense pas qu'il soit monté sur scène. Il avait toujours un harmonica avec lui déjà, et il écoutait déjà des 45 tours de samples de blues que des copains lui ramenaient des États-Unis. Et il a été ancré dans ce blues-là, et il n'a pas changé en 55
ans. Voilà. Et non. On l'avait au téléphone il y a quelques semaines, Benoît, pour parler justement de ce disque, et notamment de ce morceau qui a été... c'est une reprise des Chats Sauvages, ça, c'est Ma Petite Amie est Vache.
Ah, Vache, oui, d'accord.
On poursuit avec un autre artiste que tu connais par cœur.
Patrick Verbeek.
Ah, bien sûr. Patrick Verbeek, avec qui tu as joué pendant de nombreuses années, je crois.
Oui, bah c'est un régional de l'époque pour toi, parce qu'il est de Caen.
Eh oui, exactement. On l'a revu il n'y a pas si longtemps. On l'a revu l'été dernier. Il jouait avec un groupe de par chez nous qui s'appelle les Witch Doctors. C'était en juillet 2019. C'était un grand plaisir. Ouais.
Incroyable.
Ouais. Toujours sur scène.
Oui, Patrick, je le connais depuis le milieu des années 70, à peu près. À l'époque où il accompagnait Vince Taylor. Et ensuite, il a commencé à m'accompagner pendant entre 1977 et 80-82, puisque on a fondé ensemble avec Claude Langlois le groupe Rocking Chair, justement.
D'accord. On poursuit avec un autre artiste français. Alors lui, il va pas falloir te baser tellement sur le chant, parce qu'il ne chante pas, c'est instrumental. C'est un guitariste talentueux. Je vais t'aider un petit peu, c'est quelqu'un que tu nous as cité tout à l'heure, quelqu'un qui figure sur ton disque et avec qui tu as enregistré de nombreuses fois.
Pas Patrice Boudolamo.
Et c'est Patrice Boudolamo, voilà.
Il chante, Patrice aussi. Hein.
Alors, il chante, mais pas sur ce morceau-là, justement. Ça aurait été trop facile. Ouais. Allez, on termine avec un truc... tu vas peut-être reconnaître tout de suite, ou pas. Le son de guitare, surtout, c'est ça qui va te guider, peut-être. Et puis le chant, bien sûr.
La voix, ça ne dit rien du tout.
La voix, ça ne dit rien. Alors écoute encore un peu. Alors il est français, hein. Puis là, c'est pas du tout un morceau de blues au départ. C'est une cover de Kiss qui s'appelle I Was Made for Loving You.
Ah oui ?
Ouais.
Je vois pas qui c'est.
Il est sur ton album. Il joue avec toi. Et tu es sur son dernier album, d'ailleurs.
Fred ?
Mais oui, c'est Fred, voilà. Fred Chapelier. Il a fait ça, il a commis ça, la cover de Kiss. Voilà, bah écoute...
C'est exceptionnel.
Ah bah oui, Fred Chapelier, oui. C'est une fine lame, effectivement. On termine sur une superbe note de 18 sur 20. Moi, je suis bluffé, absolument épaté par cette connaissance, cette culture. Des tas de disques à la maison, et puis bien sûr, une discographie pléthorique. Tu as fait partie de nombreuses équipes, tu as été producteur, tu continues à l'être, organisateur de concerts pendant des années, et également DJ pour RFM au début de la radio, c'est ça, Alain ?
Oui, puisque... en réalité, je faisais une émission spécialisée sur la country et un peu le blues sur Radio 7, qui était la première radio rock du groupe France Inter, qui était dirigée par Patrick Meyer. Et en 81, quand il a créé RFM, il m'a embarqué avec lui, il m'a demandé de devenir animateur dès le départ. Donc dès que RFM a démarré, je faisais partie du noyau dur, voilà.
Et alors,
ça a eu 3 ans à peu près.
3 ans, voilà, c'est la question que j'allais te poser. 3 ans de radio, et puis ensuite, d'autres projets t'ont appelé. Tu as parlé de la création de Dixie Frog avec Philippe Langlois.
Dixie Frog en 85,
c'est ça.
85-86.
Et puis l'organisation de concerts. Alors, tu as également été, musicien, chanteur, organisateur.
Tu sais, quand c'est une petite structure, en plus de ça, il y avait deux raisons à ça. Tu es une petite structure, donc tu n'as pas les moyens d'avoir des équipes pléthoriques. Et puis en plus, moi j'adorais être sur la route, et ça me permettait d'être avec les musiciens sur la route en permanence, de spiquer roast beef tout le temps, puis de connaître de très près les organisateurs, ce qui était important aussi.
Avec un petit regard dans le rétro sur ta carrière à toi, quels seraient en fait les temps forts de ta carrière, que ce soit au niveau discographique, au niveau expériences humaines ?
Ah, c'est très difficile de répondre à un truc pareil.
On a une heure devant nous, si tu veux, il n'y a pas de problème.
Mais dans la mesure où, comme tu le disais, j'ai quand même vécu des choses très diverses et très très riches.
Mais oui.
Donc, arriver à sortir des moments plus fastes que d'autres, tout simplement, professionnellement parlant, basiquement, quand Rocking Chair, le groupe donc, que j'avais créé avec Boudot et Verbeek, et surtout pour l'anglais, a cartonné avec un titre assez connu en 81 qui s'appelait Soyez Nature.
Oui.
Ça a marché assez fort sur France Inter, RFM et Europe numéro 1 surtout. Donc on était très contents, on était très vraiment fiers et on s'est dit en plus on va gagner un peu de thune et puis finalement on n'a jamais rien touché là-dessus pour des raisons de faillite de la maison de disques qui n'a jamais payé ni les royalties, ni les droits d'auteur, ni rien du tout. Voilà.
C'est le disque, c'est le morceau qu'on est en train d'écouter qui fait partie de ton disque.
On a toujours répété, du lever au coucher à l'école sous les marronniers, au régiment sergent futé, au travail soir à la télé.
C'est marrant, on en arrive à une partie de l'interview, une partie de la conversation qui me rappelle cet échange qu'on a eu l'autre jour avec Benoît Blueboy. La fin des années 70, le début des années 80, c'était facile d'enregistrer. Tout le monde attendait les Français quand ils faisaient un petit peu de rock en français, justement.
Oui, il n'y avait pas beaucoup de monde. Tiens, d'ailleurs, pour la petite histoire, le premier album de Benoît, je fais les chœurs dessus.
Ah oui, d'accord, ben ça je ne savais pas non plus. On est en 79, rappelons-le. Hein.
79,
oui. Et là, Soyez Nature, c'était en 81. Quels étaient 81. Les musiciens qui jouaient avec toi à cette époque-là?
Ben donc c'était les membres du groupe Rocking Chair, c'est-à-dire que il y avait Patrick Verbeek et Patrice Boudolamo.
Ouais.
À un moment ils ont mis deux. Claude Langlois à la pédale de guitare. Et puis à la basse il y avait un basque qui exerce toujours apparemment, qui s'appelle Patrick Ara, qu'on surnommait Zizou. Et à la batterie il y a eu toujours un espèce de volant de batteur. Il y a vraiment eu un batteur fixe pendant les 6 ou 7 ans que le groupe a existé. Voilà.
Si on revient rapidement sur ton activité d'organisation de tournée, il y a eu une véritable kyrielle d'artistes américains, notamment, on peut citer Albert King, Wilson Pickett, Bo Diddley, Junior Wells, Johnny Copeland, Clarence Gatmore's Blonde, et puis des dizaines d'autres. Si tu devais retirer une anecdote ou un souvenir particulièrement poignant, particulièrement fort de ton expérience avec des gens comme ça, ça serait à qui ?
D'une part, c'était pour la plupart des gens qui étaient que j'admirais depuis les années 50-60, et j'aurais jamais pensé qu'un jour je les approcherais de près et que je travaillerais avec eux. Notamment des gens qui pour moi étaient des phares comme Bo Diddley, Wilson Pickett ou Albert King. Bo était assez sympa d'ailleurs, c'était un mec plutôt bon enfant.
C'est pas forcément la réputation qui véhicule partout hein, d'ailleurs.
Ben, Bo Diddley, moi je sais que j'ai pas eu de mauvais échos dans l'ensemble.
D'accord.
Par contre, Wilson Pickett et Albert King, c'était deux talentueux artistes, mais quand même très très tête de con.
Vraiment. Un peu soupe à l'air, on va dire, ouais.
Ah ben c'était les pires expériences humaines que j'ai pu avoir avec des artistes.
Moi, j'ai jamais parlé avec Albert King, mais je l'ai vu sur scène une fois, et je me souviens d'une engueulade qu'il a eue devant les spectateurs envers son bassiste, qui avait dû faire juste une demi-fausse note. Voilà, il fallait mieux pas... il fallait filer droit, quand même.
Il s'engueulait avec tout le monde,
ouais.
Notamment quand il était sur scène ou au moment de passer sur scène. D'ailleurs, Verbeek, qui avait contribué à organiser quelques concerts avec Jacky Callard, les premiers concerts d'Albert King à Paris, il avait une théorie qui, je pense, n'est pas fausse. Il dit qu'Albert, pour bien jouer, faut qu'il soit en rogne. Donc, il trouve un moyen de se mettre en rogne et après, il joue bien.
Incroyable. Wilson Pickett, lui aussi, c'était quelqu'un d'un peu orageux, un peu ombrageux parfois sur scène, un peu à l'image de James Bond.
Soyons clairs, Wilson Pickett, c'est un fou. Wilson Pickett, c'est un type qui est à la fois un type qui avait un caractère complètement cyclotémique, qui pouvait passer en deux demi-secondes sans qu'on puisse savoir pourquoi. D'un mec à peu près sympathique, un fou curieux qui t'injurait et qui était prêt à te taper sur la gueule.
Moi, je me souviens d'une conférence de presse à Cognac avec Wilson Pickett. C'était un type absolument affable qui nous a gratifié de plein d'anecdotes sur son expérience de la.
Il pouvait l'être.
Mais oui.
Mais en même temps, Wilson, ce qu'il avait, c'est que il avait été gravement accro à l'héroïne et en plus, il était diabétique. Ça donne des cocktails très détonnants.
Effectivement. Ouais. Et puis, on pourrait citer plein d'artistes. Il y en a qui sont toujours actifs, bien évidemment. Duke Robillard, Joanna Connor. Et puis d'autres qui nous ont quittés. Il y a quelqu'un qu'on a évoqué l'autre jour en préparant cette émission. C'était un chanteur de la Nouvelle-Orléans que j'affectionnais beaucoup, qui s'appelait Johnny Adams.
Ah.
Tu as joué avec lui ou tu as simplement organisé des dates pour lui?
J'ai organisé des festivals avec lui en région parisienne, à Colombes, à Villeneuve-sur-Lot, différents endroits comme ça. Donc je l'ai approché, j'étais sur la route avec lui. C'était un type discret, très gentil. En plus, malheureusement, au moment où j'ai travaillé avec lui, il commençait, je pense qu'il le savait ou qu'il le sentait, mais il commençait à souffrir du cancer qui l'a emporté. Hein.
Johnny Adams, qu'on associe souvent à Percy Mayfield, qui lui nous a quittés il y a déjà fort longtemps, un garçon qui lui aussi avait subi pas mal d'accidents de la vie. Ça fait partie des artistes comme ça qui n'ont pas réussi vraiment à percer auprès du grand public et qui pourtant étaient pétris d'un talent incroyable, quoi.
Percy Mayfield, aux États-Unis, tout le monde l'appelle le poète laureate. C'est-à-dire donc le lauréat de la poésie, tellement ils sont tous en admiration devant notamment les textes qu'ils pouvaient écrire, tu vois.
Pour illustrer un petit peu cette conversation, voici quelques secondes d'un de ces artistes absolument incroyables. Il monte sur scène.
This next song.
Alors, le son est un peu pourri, je reconnais.
This song from a very wonderful album I have. Thanks to Mr. Percy Mayfield and his wonderful songs.
Voilà, on est en 2010.
Walking.
Et c'est du live.
On a tight road.
Walking on a Tightrope.
Voilà. Marcher sur, une, sur un fil, hein, comme un funambule.
Exactement.
C'était
comme un, funambule,
ouais. un de ses titres fétiches, hein, à Johnny Adams.
Et c'est Johnny Adams, là, justement.
C'est Johnny Adams.
Ah, ouais. Quel grand chanteur.
Exactement. Alain, à ce moment-là de l'interview, on va revenir un petit peu sur cet album. Je voulais savoir comment est-ce que tu avais fait, tout simplement, pour en arriver à cette sélection de 32 morceaux, double album, qui s'appelle donc With a Lot of Help from My Friends. Ça t'a pris des semaines, des mois, ou est-ce qu'il y avait des évidences?
Bah, il y avait des évidences, déjà, c'est que bon, j'ai enregistré avec, j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'invités, de gens qui ont eu la gentillesse d'enregistrer avec moi au fil du temps. Et puis, il y en a quand même pas non plus des tonnes. Hein. Donc, ça a été relativement simple de les identifier et de pouvoir les mettre ensemble. Et puis, ça m'a pris pour deux choses. D'une part, c'est le titre lui-même qui s'est imposé. L'idée m'est venue en écoutant With a Little Help from My Friend,
ouais.
Friends, la version Cocker. Et je me suis dit, justement, ça me fait la réflexion que moi, j'ai eu la chance d'enregistrer avec beaucoup de gens très talentueux. Et tout de suite, le titre m'est venu, With a Lot of Help from My Friends. Et après, bon, il ne savait plus qu'à s'engrainer, se mettre ensemble. En plus, je me suis dit, je vais approcher 74 ballets. C'est peut-être un peu le moment de faire une espèce de retour sur mon genre de carrière. Voilà.
Ouais. Et ben, donc, une rétrospective. J'ai quand même un petit regret, Alain, c'est de ne pas pouvoir posséder l'objet en format physique, que ce soit vinyle ou CD. Alors, est-ce que ça sera possible un jour?
Ben écoute, ce sera peut-être possible si je me décide à le faire. Le seul problème, c'est que Dixifrog n'a pas voulu le faire dans la mesure où je tourne très peu. Et comme tu le sais peut-être, la plupart des disques, bon, surtout les CD, parce que les vinyles, c'est un peu chiant à trimballer, mais les CD, ça se vend surtout lors des concerts, concerts.
Et
comme je tourne très peu, ils se sont dit que ce n'est pas la peine qu'on investisse dans un prestage. Alors qu'on a toutes les chances que les CD nous restent majoritairement sur les bras. Donc, comme beaucoup de gens téléchargent maintenant, ils sont contentés, sans se limiter au téléchargement.
Voilà, un album qu'on peut trouver donc sur le site internet de Dixifrog. Alain, merci pour tout ça, merci pour toutes ces anecdotes. Et puis, je pense que en 2021, je penserai à nouveau à toi si tu es toujours d'accord pour faire un petit peu de radio avec moi, parce que il y a plein de choses à dire encore. Hein. Ça me frustre de rester dans ce format d'une heure.
Voilà, vraiment.
On se quitte avec un extrait justement du disque, ça s'appelle Passage de la planète. Et à très bientôt, bonne fête à toi Alain.
Toi aussi.
Merci encore. Voilà, c'était Sweet Home Chicago, numéro 1085. On se retrouve la semaine prochaine avec Elmore Jazz de Doudoudou. Salut, bye bye.
Des tas de cailloux qui brillent dans le soir.